L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Dimanche 13 avril 1957. Il est à peine 9h. Nous sommes près de Milly la Forêt. Dans cette campagne proche de Paris que chérit Françoise Coiré, mieux connue sous son pseudonyme de romancière Françoise Sagan. Depuis sa naissance, dans la verdure du Lot, à Cajarc, elle conserve un attachement secret pour les quiétudes champêtres. Une volupté physique de se rouler dans l'herbe. À Milly, elle s'est mise au vert, dans ces silences idylliques qui bordent Fontainebleau. Entre deux cigarettes, elle hume les horizons. C'est ce qu'elle désirait. Elle emmènera souvent dans cette belle île de France pas mal de ses personnages, quand ils voudront oublier leur nausée de Paris. Pour les épuisés de la capitale, comme elle les appelle, c'est la vraie et lointaine campagne de l'enfance. Ce matin du 13 avril 1957, le soleil n'est pas au rendez-vous. Un jour pâle inonde le paysage. Françoise s'est levée. Elle entr'ouvre la fenêtre. Molleton de nuages, temps brumeux. Brumeux aussi son regard. Trop de whisky hier soir, pense-t-elle. Son regard découpe un début de dimanche. Le brouillard est aussi dans sa tête. Elle se retourne. Un homme, jeune, est nu dans les draps. Sur la table, elle sourit à sa machine à écrire portative. Elle ne la quitte jamais. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est ici, pour écrire. Ce vieux moulin, cette ancienne demeure, est parfaite pour ce genre de retraite, avec ses parquets qui craquent sous ses pieds nus. Il est 9h, c'est l'heure H de mon histoire. Françoise est aussi venue ici pour faire le point avec elle-même. Il n'y a pas très longtemps, elle a rencontré un éditeur, Guy Scheuler, plus âgé qu'elle, beaucoup d'humour, l'air fatigué, les yeux gris, un regard triste. Oui, mais Scheuler veut diriger sa vie et la jeune femme est prise de liberté et tout. Elle regrette de ne pas s'être assez méfiée de ce séducteur invétéré. Elle a donc sous-loué ce moulin de Christian Dior où elle vient de s'éveiller, pour échapper à l'emprise de cet homme. Ses sentiments se bousculent. Entre deux hommes, elle est comme une boule de billard électrique. L'homme mûr et rassurant ou le jeune amant nu dans le lit des faits. C'était déjà l'hésitation de son héroïne dans Un certain sourire. Comme souvent, Françoise se réfugie dans l'écriture. Son nouveau roman prend forme. Ce sera son troisième après Bonjour tristesse et Un certain sourire. Elle a déjà son titre, dans un mois, dans un an. Elle compte bien le publier à la rentrée, toujours chez Julliard. Sa vie intime et ses romans commencent à se confondre. Ce qui l'intéresse, ce sont les rapports des gens avec la solitude ou avec l'amour. Mais aujourd'hui, pas d'écriture. Le clavier de la machine, c'est pour la semaine. Le week-end, elle file à Paris, où elle reçoit au Coudray. Et ce dimanche, la fête sera au rendez-vous. Elle a invité à déjeuner le cinéaste américain Jules Dassin et son épouse, la belle Mélina Mercouri, à la voix grave, sensuelle. La demeure s'éveille avec lenteur, elle aussi. Mur de grosses pierres, grande fenêtre à croisillons, chambre mansardée, un plan d'eau, de la verdure, un semblant de jardin, des volets verts. Un porche un peu grandiloquent avec ses cannelures Renaissance. Françoise préfère l'aile gauche. L'ancien moulin, déjà là au XIVe siècle. Oh, elle s'en fiche du XIVe siècle. Elle n'aime que le présent. Mais elle aime ses rosiers, ses végétations qui escaladent les anciens murs. Elle entend bruisser l'eau de la rivière sur la vieille roue à aube. La rivière se nomme l'École. Drôle de nom, s'est-elle dit. Mais dans ses 269 mètres carrés de solitude, elle se sent bien. Et son roman avance. Déjà levé, mais... Et quelle heure est-il ? Ça, c'est la voix de l'homme nu dans le lit. Voldemar Lestienne, un journaliste de France Dimanche. Ils se sont rencontrés lors d'une interview. Sa première question a été « Qu'est-ce que vous faites demain ?» À laquelle Sagan répondit « Je m'en vais écrire un livre dans une maison près de Milly la Forêt. »« Je pars avec vous », avait-il lancé. Françoise l'avait averti. « Si vous êtes frileux, Il n'y a pas de chauffage. » Le jeune homme s'en fichait. Ils allumeraient des feux de bois et vivraient ici blottis comme des chatons. Elle est comme ça, Françoise. Elle n'est pas le symbole de la jeune fille libre des années 1950 pour rien. Elle est une enfant du siècle, timide et désinvolte, fausse adulte ou enfant qui grandit encore. Un peu la Cécile de son « Bonjour tristesse », séduite par des amours rapides, violentes et passagères. Cultivant un certain cynisme désabusé, jouant au plaisir que procure l'argent facile. Côté cœur et côté corps, Sagan est inattendu, imprévisible, voire infidèle. Rapide dans ses amours comme elle l'est sur la route, mais fidèle en amitié. Et aujourd'hui, elle guette la venue de quelques-uns d'entre eux. Sa tendre amie Véronique Campion est déjà arrivée. Par la fenêtre entrouverte, Françoise perçoit des klaxons, des cris, des rires. Les voilà déjà. Son frère, Bernard Coiré, son double au masculin. Et puis, Bernard Franck, intellectuel pur, cigarette au bec. Elle l'adore, remue-ménage, bagage et embrassade. Dans la cuisine luxueusement champêtre, on petit-déjeune gaiement. Bernard Franck veut parler littérature. « Ah, pas question !» Et Françoise s'empare d'un de ses disques, le pose sur l'électrophone. La voix de Billie Holiday s'élève. Elle l'a découverte lors de sa triomphale promotion de « Bonjour tristesse » aux États-Unis il y a 2 ans pile. Après le blues, le bebop, allez, on danse. Et elle entraîne frénétiquement son frère, ses disques, son électrophone. Elle les trimballe partout. Le jazz, elle adore. Dans un certain sourire, elle a crié son credo. La musique de jazz, c'est une insouciance accélérée. Cette insouciance accélérée, c'est aussi elle-même. Ce qu'elle est devenue depuis le succès de son premier roman. Ce qu'elle sera toute sa vie. Et tant pis si elle est adulée, surmédiatisée, harcelée par des journalistes semi-idiots. Tant pis si elle est devenue un phénomène, un objet de consommation littéraire. Tant pis si la gloire la présente pour ce qu'elle n'est pas. Elle se sent comme une denrée, dit-elle. Et elle ne le supporte pas. Mais dans le snobisme parisien, elle demeure un îlot de fraîcheur et de simplicité. Avec ses amis, comme dans cette cuisine de Mie, devenue dancing, elle se déchaîne, gaie, espiègle, avide de rire, de danse, de jazz et de vie. Sagan a 22 ans. Elle a fêté sa majorité l'année précédente, le 21 juin 1956. Dans la Dolce Vita de Saint-Tropez, entre 2 professeurs de cha-cha et des bouteilles de scotch vidées allègrement. Car elle est déjà pour beaucoup la Françoise de Saint-Tropez. Fête, farce, ivresse, boîte de nuit, plage et club 55, été et corps brûlant, poursuite en automobile avec Vadim. Le cinéaste Alexandre Astruc décèle déjà l'envers du décor. Mélange de torpeur et d'agitation, raconte-t-il. Va-et-vient exténuant de brouille et de réconciliation. L'idée fait dont les occupants changent à un rythme vertigineux. Fièvreuse indifférence, ennui entretenu, un petit coup d'alcool, et déjà la mort en face, sur des bolides conduits à un train d'enfer. Françoise Sagan tisse déjà sa légende. Déjà 11h30, et à propos de bolide, elle file. Il lui faut de l'essence pour son cher bolide. À la campagne, à l'époque, les stations-service n'abondent pas. Sur le terre-plein du manoir, elle retrouve avec émerveillement son Aston Martin DB2-4 décapotable. Fauve, assoupi, prêt à bondir. Au passage, elle caresse le profil parfait. Geste révélateur. Françoise aime les voitures comme elle aime être caressée. À cette époque, l'automobile devient un objet érotique sublimé par la publicité. Elle aime les voitures surpuissantes, pour ce qu'elles sont autant que pour la jouissance qu'elles procurent. Cette fascination remonte à l'enfance. Dès qu'elle a eu 8 ans, son père l'a calée sur ses genoux et l'a laissée tenir le volant. Toujours des voitures de grand sport, décapotables pour le bronzage. La vitesse et le plaisir, cette famille. Très aisée, ses parents avaient déjà le sens de la fête et s'échappaient à toute vitesse vers Deauville ou vers la Côte d'Azur. Impatiente comme toujours, Françoise n'a pas attendu. Elle a passé son permis 5 jours après ses 18 ans. Depuis, elle aime toucher une voiture. La respirer même. Elle trouve du plaisir, dit-elle, à sentir ce piège d'acier flotter à grande vitesse, atteindre le haut de la vague, atteindre le bonheur de vivre. Même quand elle est folle d'amour, elle confesse l'être moins à 200 à l'heure. Son sang alors ne se coagule plus au niveau du cœur, il gicle vers ses pieds, ses mains, ses paupières. Son intimité, ses paupières deviennent alors les sentinelles de sa propre vie. Et son corps se met en garde. Elle ressent autant de sensualité quand elle regarde un homme conduire, dangereusement si possible. Geste suggestif, domination, image de virilité. La poussée du moteur qui monte dans les reins. Et ce changement de vitesse, dressé comme un sexe. Dès ses succès en librairie, Françoise va acheter, collectionner les bolides. Une grande part de ses droits d'auteur y passe. Jaguar, Gordini Sport, AC Bristol, Buick, les cylindrés défilent. Après, ce sera une Ferrari 250 GT pour fêter le succès de son roman La Chamade. Elle décolle comme un avion, dit-elle. Elle aime ça. Certains de ses passagers, beaucoup moins. À Paris, elle et son frère organisent des rodéos. Ils se rendent la nuit, place Saint-Sulpice, et, à plus de 100 à l'heure, se lancent l'un contre l'autre, freinant au dernier moment, juste avant le Big Bang. Un journaliste écrira même qu'elle conduit pieds nus. Pure invention. Sauf quand elle est à Saint-Tropez et qu'elle rentre de la plage. Il est déjà passé midi dans le manoir de Milly-la-Forêt. Le téléphone sonne. Ce sont les Dassins. Ils ont crevé un pneu. Ils ont du retard. Que Françoise et ses amis passent déjà à table. Ils arriveront un peu plus tard. Mais ils seront quatre, avec l'agent littéraire Alain Bernheim et Marjorie, son épouse. Les attendre ? Pas question. On abandonne la cuisine à son désordre. Les disques de jazz traînent sur le dressoir. On part à la rencontre ou à la recherche des Dassins. L'Aston Martin rugit déjà. Bonjour vitesse. Françoise s'élance sur la RN448 et direction nord, vers Corbeil. Jambes allongées au maximum, main gauche sur le volant comme lui a appris son père. Brutalité du débrayage, hurlement des freins. Décidément, cette anglaise lui plaît. 123 chevaux, 5000 tours minutes, 6 cylindres en ligne, de 0 à 100 en 11 secondes. C'est une des meilleures sportives du moment, amusante à conduire. Elle peut dépasser la barre des 200. Seul défaut. Elle a le cul un peu léger dans les virages. À l'arrière, l'intello Bernard Franck s'est recroquevillé pour trouver sa place. À l'avant, Voldemar, le jeune reporter et amant, est coincé entre Véronique et Françoise. Le jeune homme a posé la main sur son épaule et lui caresse le cou, là où toute femme aime qu'on lui pose un baiser. Chaleur d'homme, tendre présence, la vie est belle. La route est dégagée, rectiligne le plus souvent. Sa gang accélère. À l'arrière, Bernard Franck s'inquiète. Il a vu au compteur l'aiguille qui flirte avec l'absolu. Non mais t'as jamais pensé à la mort en conduisant si vite ? Non. Non, au contraire, ça la stimule. La pousse à goûter plus encore à tous les plaisirs. Elle veut bien mourir, mais mourir avec le nez dans le cou de quelqu'un qu'elle aime. Et Voldemar sourit. Elle ne voit pas son sourire, les yeux rivés sur la route en mauvais état. Pas mal de nids de poule. Soudain un cri. Les voilà. Ils viennent de croiser les Dassins entre Milly et Corbeil. Les deux voitures s'arrêtent en pleine campagne, se rangent. On s'embrasse, on rit, on est heureux. On se promet un dimanche fastueux et arrosé. Et on repart ensemble vers le manoir de Coudray. Les Dassins passent devant. À cet instant, qui défie Sagan ? Qui prononce ces mots fatidiques ? Ton auto, c'est un veau. Ce qu'il ne fallait pas dire à cette joueuse de Françoise. Elle accélère de plus belle, rattrape l'autre voiture, lance son Austin à gauche, dépasse, disparaît de la vue des Dassins. Elle nous a doublé comme une flèche, témoignera le cinéaste. Sur sa lancée, elle aborde une courbe anodine. À 150 à l'heure, confirmera l'enquête. Mais elle vire trop à gauche. Coup de volant à droite, le bolide réagit mal, se met à flotter. Sagan enfonce la pédale de frein. Les roues à rayons se bloquent. Françoise ne contrôle plus rien. À l'entrée de la courbe, l'auto quitte la route. pique dans le bas-côté. 20 mètres plus loin, se redresse, dérape dans les labours, saute, part en tonneau. En giclant de la boue, la stone s'arrête enfin. Elle s'est retournée sur Françoise, les quatre roues en l'air. Décapotée, la voiture a éjecté les autres passagers qui gisent sur le champ. Françoise, elle, est prisonnière du métal broyé. Elle qui a toujours voulu faire corps avec sa machine. Il est 14h20. Silence. Puis, des plaintes et des cris. Sous les 1300 kilos de la voiture, la conductrice est inconsciente. Au détour du virage, les Dassins surgissent, découvrent soudain l'accident, freinent, hurlent, interviennent les premiers. Les deux femmes au bord de la route arrêtent les voitures, supplient leurs occupants d'aller chercher du secours. Certains se proposent de soulever la stone, ce qu'ils réussissent avec peine. Alain Bernheim tente le bouche-à-bouche sur Françoise. Les autres réconfortent les trois passagers. Véronique a le bassin fracturé. Franck, le bras en mauvais état, et Voldemar souffre de contusions au visage. C'est lui. C'est lui qui, des trois, paraît le plus touché. Pendant ce temps, Sagan est en train de mourir. Elle restera 40 minutes dans son cercueil de métal. Elle a une double fracture du crâne, la cage thoracique défoncée, une fracture du bassin, du poignet, de la clavicule et des vertèbres abîmées, et la calandre a écrasé sa jambe. La gendarmerie d'Essonne et les secours finissent par arriver de Corbeil. Les pompiers mettront plus de 30 minutes pour désincarcérer la romancière. Elle et ses amis sont transportés à l'hôpital de Corbeil. Françoise est dans le coma. Au cours de ce transfert, le médecin s'interroge sur ses chances de survie. Et malgré ses blessures, Voldemar Lestienne a le regard fixé sur elle. Elle ne bouge plus. Il la croit morte. Il pense à l'amour qu'il a éprouvé pour elle. « Je serai le dernier à l'avoir serré dans mes bras », pense-t-il. À son arrivée aux urgences, un prêtre administre l'extrême onction à la jeune romancière. De son côté, Ami Laforêt, son frère, Jacques, s'inquiète de ne pas voir revenir la Aston Martin. Prévenu, il prend sa Jaguar et, au passage, découvre le lieu du drame. À la vue de l'épave de la voiture, il fonce vers l'hôpital. Là, il prend les choses en main. Les urgences n'arrivent pas à joindre le chirurgien de service. C'est un comble ! Jacques appelle alors un de ses amis chirurgiens parisiens et décide de faire transporter sa sœur à Paris. Il n'avertit pas les parents Coiré. La mort retient son souffle.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte le moment où la vie de la célèbre romancière Françoise Sagan bascule. Sagan a fêté sa majorité l'année précédente, le 21 juin 1956, dans la Dolce Vita de Saint-Tropez, entre deux professeurs de cha-cha et des bouteilles de scotch. Car elle est déjà pour beaucoup la Françoise de Saint-Tropez. Fête, farce, ivresse, boîte de nuit, plage et club 55, été, corps brûlant, poursuite en automobile. Mais à bord de son Aston Martin, ce dimanche 13 avril 1957, la vitesse qu'elle aime tant la précipite vers un virage imprévu. Et Sagan lutte entre la vie et le néant. La mort hésite. L'ambulance arrive à 18h15 à la clinique Maillot. Soudain surgit une meute. Les flashs crépitent. Toute la presse hexagonale et internationale est déjà là, sur le pied de guerre. Les téléscripteurs ont parlé. Si la presse se bouscule, c'est que Sagan, après avoir été objet de scandale, est devenu un mythe. Avec cet accident, elle a accédé à la gloire médiatique. Elle est devenue une héroïne moderne. L'accident d'une jeune femme célèbre attise la sensibilité du public. Public qui, dès cet instant, va être tenu au courant heure par heure de l'état de l'auteur de Bonjour Tristesse. Oh, les jeux de mots faciles fusent. Bonjour vitesse, adieu jeunesse. Le pronostic vital reste réservé durant 48 heures. Attente pour tous. Beaucoup pensent à James Dean, qui s'est tué dans sa Porsche 2 ans plus tôt. Le Monde, en première page, résume par cette formule. Le malheur et la fureur de vivre. L'acteur américain et la romancière française témoignent du mal de la jeunesse. Même Le Monde moralise. Avide de sensationnel. Paris Match titre « Sur la route des enfants terribles », Françoise Sagan blessée. Le Monde du 16 annonce « À la clinique Maillot, on essaye de la sauver ». Et François Mauriac se fait plus catholique que lui-même. Le diable n'est-il pas envoyé sur terre en voiture de sport ? Folie médiatique. Dans les rédactions, on prépare la chronique nécrologique. Tout est prêt, les détails aussi. Famille cossue, deux bacs, 1 an à la Sorbonne et un échec, un premier roman et le succès mondial, le prix des critiques. Cliché ou carte de visite ? Les journalistes ignorent que la gloire immédiate de l'écrivaine et l'argent qui va avec n'avaient en rien modifié ses rapports avec sa famille, ses amis et surtout avec elle-même. Chaque reporter, chaque journaliste rappelle évidemment le scandale de Bonjour Tristesse en 1954. 3 ans auparavant, une jeune femme de bonne famille et de 18 ans avait osé raconter l'histoire d'une autre jeune fille du même âge, Cécile, qui fait l'amour par plaisir et ne tombe pas enceinte. Comble du scandale, cette héroïne poussait à la mort la maîtresse de son père, qui mourait dans un accident de voiture. Suicide ou perte de contrôle sur une route dangereuse de l'Estérel. Le roman avait de quoi choquer et il l'a fait. Roman audacieux, cynique, parfois cruel. Les journalistes surveillent d'heure en heure les communiqués des médecins. Personne n'a compris la portée de « Bonjour Tristesse ». L'histoire imaginée par Sagan correspondait à un moment où la jeunesse avait besoin qu'on lui lâche la bride. À cette époque, on ne traitait pas encore les jeunes en adultes. Ils n'avaient pas encore une musique à eux, une économie à eux, une société faite pour eux. Et soudain, cette toute jeune Sagan sort ce roman et ouvre une brèche. Elle apportait au public, jeune et moins jeune, le roman qu'il attendait, à l'instant où il l'attendait. Une nouvelle génération de jeunes femmes était née. Elles allaient écrire ce qu'elles voulaient, pas ce que souhaitaient les éditeurs. Pour résumer cette nouvelle génération, Françoise Giroud, en octobre de cette même année 1957, la baptisera « Nouvelle vague » dans un article de l'Express. L'appellation va faire fureur. Le cinéma va s'en emparer. En 1959, Richard Anthony en fera même un tube qui colle à l'époque de Sagan. On y parle d'indépendance, de jolies filles et de cavaleurs masculins, d'une petite MG d'Elvis Presley et surtout de journaux écrits par des gens racis qui critiquent avec dépit les jeunes de la nouvelle vague. Les journalistes qui, avec dépit, critiquent cette nouvelle génération, ils sont là aussi dans les salles de rédaction, au point presse, aux abords de l'hôpital. Enclin à dénoncer ces jeunes et cette jeunesse dorée. Il leur arrive même de manquer de tact. Avec une ironie mal placée, certains rappellent que suite à son succès, la jeune écrivaine avait déclaré « Avec mon livre, je gagnerai beaucoup d'argent et je m'achèterai une Jaguar ». Est-ce bien le moment de rappeler ça ? Alors que Françoise lutte entre la vie et la mort. Elle lutte et elle gagne. 2 jours après le carambolage, elle se réveille. C'est un miracle. Elle ne se souvient de rien, même pas de la veille de son accident. Au réveil, elle croit qu'elle a été réopérée de l'appendicite. Il lui faudra 3 mois pour récupérer ses jambes qui semblent échapper à son corps. Elle subit plusieurs opérations. Elle, la fille surprotégée par ses parents pour la première fois de sa vie, va devoir faire face à cette terrible ennemie, la douleur. Son amie, Annabelle Buffet, racontera qu'elle a souffert le martyre avec un courage exemplaire. Mais après l'accident, elle ne sera plus la même. L'épreuve l'a rendue mentalement plus fragile. La solitude dans la souffrance aussi. Les gens qui vous aiment le plus ne peuvent rien pour vous, notera Sagan par après. Mon accident m'aura au moins appris cela. À un moment, j'ai su que j'étais définitivement seul. Et quand son cher ami Guy Scheuler, directeur chez Hachette, se penche sur son visage marqué et endolori, il lui murmure « Si tu guéris, je t'épouserai ». Face à ces douleurs insupportables, on lui administre pendant des mois des doses trop importantes d'un nouvel analgésique, le Palfium 875, un dérivé de la morphine. Françoise entre alors dans une spirale infernale. Elle devient dépendante. Nous sommes loin du Maxiton qu'elle consommait en écrivant « Bonjour tristesse ». Quittant la clinique Maillot, elle commence une cure de désintoxication à Garches. Je suis sorti de l'hôpital complètement intoxiqué, sans réaction, un peu comme un animal à qui on aurait coupé certains nerfs. J'en arrivais à pleurer, sans savoir pourquoi. Dépression, idée de suicide, un long combat fatigant nauséeux qui lui permet, dira-t-elle, d'acquérir une certaine estime d'elle-même. Ses nuits sont terribles. Sevrée, elle se traîne à l'aube pour aller chercher l'infirmière. Et c'est un autre calvaire. Dans Toxique, son journal de désintox, elle écrit « En remontant avec elle, j'ai eu le sentiment de ce que pouvait être le sentiment de la déchéance. Finalement, elle m'a donné l'ampoule. » Elle a peur, Françoise. Elle a peur pendant 4 mois. La cure s'avérera insuffisante. Elle a été beaucoup trop courte. Un journaliste la prend en photo sur son lit. Elle lit « Tintin au Congo » et « Le trésor de Rackham le Rouge », 2 albums signés Hergé. Elle a une petite mine. À sa sortie, elle continue sa rééducation physique. Les jambes, c'est le plus long. Des crampes les agitent pendant des heures. Devant ses amis venus la voir, elle écrase des mégots sur son talon nu pour leur montrer que ses membres inférieurs sont devenus insensibles. Malgré toutes ces épreuves, elle ne renonce pas pour autant à son amour de la vitesse. Ce capot noir qui s'élançait, ce bruit confiant, amical, Jaguar, Aston, je m'ennuie de vous à périr, après avoir failli périr par vous, note-t-elle dans Toxique. La douleur physique la quitte en octobre. Elle va désormais naviguer entre légèreté, noirceur, élégance et douleur. Et ses romans en porteront la trace.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'accident de voiture de Françoise Sagan, ce moment où sa vie va prendre un autre tournant. Elle accède à la gloire médiatique. Elle est devenue une héroïne moderne. Mais cette épreuve change-t-elle sa vie? Pas comme on pourrait le penser. Elle dira que l'accident l'a rendue plus inconséquente, plus frivole. Après avoir vu la mort de près, elle n'en a plus peur. La mort, à ses yeux, a perdu de son prestige. Françoise Sagan se lance désormais dans un autre accélérateur de vitesse. Le jeu. Il va la griser. Au casino, tous les joueurs vous le diront. On jouit rapidement sous cascade accélérée de sensations contraires. Très vite, elle se télescope. Votre adrénaline s'emballe. Impair et passe. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Gain ou perte. Exaltation ou désillusion, toutes ces émotions entrent en elle à la vitesse cardiaque. Ces accélérations sont moins dangereuses qu'au volant, mais nettement plus préjudiciables pour ses avoirs. Elle n'en a cure. D'ailleurs, quand elle a demandé à son père ce qu'elle devait faire avec les sommes mirobolantes gagnées avec « Bonjour tristesse », il lui a répondu du tac au tac, « À ton âge, il vaut mieux les jeter par les fenêtres. » Sur le tapis vert, elle découvre la même griserie qu'au volant de ses bolides. Au jeu du chemin de fer, c'est encore la vitesse qui la stimule, la vitesse des déplacements qui la fascine. À la roulette, elle repère ses chiffres favoris, le 3, le 11 et surtout le 8. Elle gagne puis va perdre ses gains au baccarat, tout de suite. Sagan n'attend jamais. Au jeu, elle apprend aussi la dissimulation, la lutte contre le hasard, contre le destin. Un soir, alors qu'elle joue au casino de Deauville, elle mise tout sur le 8. Et 8 heures du matin, elle gagne 8 millions. Le 8, son chiffre fétiche. Avec ce pactole, elle achète le 8 août un manoir délabré mais ravissant, isolé, en Normandie, à Ecquemauville, près de Honfleur. Ce manoir du Breuil sera son bonheur durant 25 ans, avec, dit-elle, 8 milliards de bons souvenirs. La chance n'est pas toujours avec elle. À force de perdre, elle finit par être interdite dans les casinos français. Qu'importe. Elle file à Londres, au Claremont Club. Dette contractée, 80 000 livres de l'époque. Elle est ruinée en quelques minutes. Mais c'est la tension nerveuse, l'exaltation enivrante, l'ivresse sans alcool qu'elle recherche. Et comme tout se joue très vite, elle se refait. Quand elle quitte la table, elle ne doit plus que 50 livres. Son ami Bernard Franck la suit dans cette quête sans fin. Jeu sur le tapis vert, jeu sur les amours. Rappelons-nous la promesse à son chevet après l'accident. La promesse que lui a faite Guy Scheuler de l'épouser. C'est chose faite. Séducteur de 20 ans son aîné, tombeur chevronné, il est aimanté par la beauté des femmes. Il désire ajouter une nouvelle conquête à son palmarès, quitte à épouser une fille plutôt androgyne qui s'habille mal. Oui, mais cette Françoise Sagan est devenue la femme la plus célèbre de l'Hexagone. De plus, un phénomène littéraire. Leur mariage ne sera que pur simulacre. Ils s'amuseront bien, c'est tout. Leurs styles de vie sont aux antipodes. Le divorce n'est pas loin. C'est comme à la roulette. Un autre jour, Françoise déclare qu'elle peut très bien éprouver une passion violente pour un crétin qui la conduira le surlendemain au Brésil. La vie, vite, toujours. Et elle va bientôt jouer son nouveau coup de poker. En 1962, à Capri, elle se repose d'une dépression en compagnie de son amie intime, Paola Saint-Just. Cette dernière doit épouser un certain Charles de Rohan-Chabot. Sagan invite le couple dans son manoir normand pour leur voyage de noces. Charles vient en compagnie de son petit ami. Étrange quatuor. Mélange des genres. Mais Françoise se rit des tabous de son époque. Le petit ami est américain. Il se nomme Bob Westhoff. Beau comme un dieu. Il lui plaît. Musclé, charmant, bronzé, souriant, intelligent, spirituel, aventurier, mannequin, bluffeur. Bob est beau, mais il est bi. Ce qui, dans les nuits parisiennes, désespère certains homosexuels ou attise la jalousie des séductrices. Comme Françoise, Bob aime s'amuser. Et ça tombe bien. D'autant qu'elle désire un beau mec pour avoir des beaux enfants. Le 10 janvier 1962, ils se marient. Bob est fou de joie d'être père. Ce sera Denis. Et cette naissance va faire mûrir Françoise et changer sa vie. Mais très vite, rien ne va plus. Peu après la naissance de Denis, un conflit les sépare. Françoise refuse de porter une alliance et de se sentir prisonnière. Ils divorcent. Ils divorcent mais continuent à vivre très bien ensemble. Françoise a aussi besoin de la tendresse des femmes. Elle les aime, mais cache ce genre de liaison. Si le mot « amour » au singulier est masculin, c'est au pluriel qu'il est féminin, lui répète une de ses amies très intimes, la bellissime chanteuse Juliette Gréco. Sagan ne fait pas mentir Gréco, mais cela n'empêche pas Gréco de filer le parfait amour sexuel avec Miles Davis en 1959, au moment où ce dernier enregistre à Paris la musique d'Ascenseur pour l'échafaud, un chef-d'œuvre du jazz et de la musique de film. « Il n'y a pas plus léger, plus gai, plus tendre, plus intelligent que Françoise », répète la chanteuse. Mais la plus inattendue des rencontres sera celle de 1968, avec la star américaine Ava Gardner. Selon la romancière, elles vont partager des nuits blanches et des petits scandales. Ava tourne au studio de Boulogne-Mayerling avec Omar Sharif. C'est au bistrot en face des studios qu'elle lit connaissance. Ava aime les femmes. Ava fuit l'équipe de tournage. Hantée par la désespérance, elle a un coup de blues. Sagan l'invite pour le réveillon chez elle. La beauté de l'américaine de 46 ans la subjugue. Elle qui est aimantée par la beauté des hommes comme celle des femmes. Ensemble, elles disparaissent quelques jours, écoutent des disques de Billie Holiday, boivent pas mal. Par son intelligence, la romancière séduit l'une des plus belles femmes du monde. Françoise Sagan est pareille au disque de son époque. Elle a une face A, mais aussi une face B, plus sombre, plus chaotique. Le meilleur n'est-il déjà pas vécu ? Après, ce seront les engagements politiques, le choix entre De Gaulle et Mitterrand, les vagues compromissions, les combats contre la torture en Algérie et en faveur de l'avortement. Les drogues surtout, les sachets de poudre partout, plein les armoires. La déchéance, le dénuement total, fisc et justice, déclin, échec et mat, échec et mort. Un jour, elle a déclaré à la journaliste romancière Madeleine Chapsal « Ce qui vaut la peine de vivre, c'est la littérature, les gens qu'on aime bien, qui vous plaisent, un accord physique évident entre soi et le monde extérieur. » Ceux qui ne l'ont pas vraiment lu, lui ont reproché de ne situer ses romans que dans une ambiance de fête, avec des noctambules imbibés de whisky et des femmes sans maturité. Regard superficiel s'il en est. Au cœur de son œuvre, Sagan étudie notre solitude majeure. Pour elle, c'est là notre ennemi. C'est ça, la vie. La vraie, l'inévitable, celle qu'on n'ose pas avouer mais qu'on est bien obligé d'admettre. Nos histoires d'amour sont les mêmes, avec peut-être un peu moins de whisky et de scandale, mais avec d'autres substances et autant d'artifices. Il y a dans ses romans des phrases qui ne trichent pas. Elle l'écrit d'une façon magistrale dans « Les merveilleux nuages » en 1961. Elle aurait voulu tout savoir de chaque personne présente. Comment ils s'endormaient, de quoi ils rêvaient, ce qui leur faisait peur et plaisir et de la peine. Pendant une minute, elle les aima tous avec leur ambition, leur vanité, leur défense puérile et cette petite solitude qui tremblait au milieu de chacun sans jamais s'arrêter. Car elle a beau, comme nous tous, rechercher la gaieté, l'indépendance, les fous rires, les nuits blanches. Comme ses personnages, elle a beau tremper ses lèvres dans le whisky ou dans son impression d'exister. Elle les trempe aussi dans le mal de vivre. La gloire. Pour elle, elle a juste été un bref instant, un plaisir mitigé, le temps de biaiser la vérité. Sagan râlera toujours qu'on la traite d'existentialiste. Elle laissa à son ami et complice Jean-Paul Sartre. Elle n'est pas existentialiste. Elle est existentielle. Son œuvre est toujours aussi lucide. Ses personnages n'ont pas vieilli. Ils nous ressemblent toujours. Toujours nos amours, nos lâchetés, nos fuites. Toujours des rapports perfides, toujours des faux-semblants, des adultères, des artifices, des jalousies, des dépressions nerveuses. Toujours des femmes mûres qui s'illusionnent avec de jeunes amants. Toujours de très jeunes filles avec des hommes d'expérience et rassurants. On continue à rééditer ses romans, colligés en gros volumes ou publiés en livres de poche. Elle a été adaptée au cinéma. Bonjour Tristesse avec Gene Seberg, La Chamade avec Deneuve et Piccoli, Aimez-vous Brahms avec Ingrid Bergman et Yves Montand. On a même tourné un biopic avec Sylvie Testu. Françoise Sagan nous a laissé son œuvre. Elle nous a confié son souvenir. Ce souvenir nous revient comme une vague sur ces plages normandes, comme cette musique de Brahms, tendre, nostalgique, qui berce les images du film adapté de son roman. Il reste dans le petit cimetière de Seuzac, à côté de son Cajarc natal, ses tombes où elle n'est pas seule. Sur la pierre avec son nom, on déchiffre celui de son second mari, le beau Bob, décédé en 1990. Ce que ne révèle pas cette sépulture, c'est que Françoise y repose aussi aux côtés de la styliste Peggy Roche. Elle l'a voulu ainsi, après 15 ans de vie commune, d'amour, de sérénité. Peggy fut, dès les années 1970, son amie, sa compagne, sa guide, sa protectrice, son amante jusqu'à sa mort en 1991. Françoise la rejoindra en septembre 2004. Vous aurez peut-être la chance de voir sur sa dalle funéraire, parmi les fleurs toujours présentes, une auto-miniature déposée par un admirateur ou une admiratrice, comme si la vitesse pouvait l'accompagner encore. Voilà donc pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de vous partager. Grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.